grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.
Vendredi 22 mai 2015, bienvenue à cette émission, le forum de la presse qui réunit donc les journalistes, les confrères de la presse privée et de la presse publique. Aujourd'hui, nous sommes avec quatre journalistes, si tout va bien. Youba Konaté du Zénith Balé, Amadou Dia, du journal L'Essor. Nous avons également Kassim Traoré de la radio Clédou et en ligne depuis Mopti, Mahmoud Boukoum de la radio Kaoural, une des radios donc du réseau de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, partenaire du studio Tamani. Merci à vous messieurs pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Diouara est à la technique.
Studio Tamani.
La situation ne s'améliore pas dans le nord du pays avec les violences qui secouent toujours les trois régions du pays, notamment à Menaka et à Ansongo. Selon plusieurs sources, au moins 6 civils, dont un employé d'une ONG, ont été tués mercredi dernier lors d'affrontements survenus dans la localité de Tinahama à Ansongo entre la coordination des mouvements de l'Azawad et les groupes armés de la plateforme. Nous venons donc d'apprendre également une attaque sur le camp de la MINUSMA à Ber, à quelques kilomètres seulement de la région de la ville de Tombouctou. Alors nous allons voir avec Kassim Traoré. Kassim Traoré, qu'est-ce que ces violences peuvent traduire après la signature de l'accord de paix le 15 mai dernier?
Bonsoir à tout le monde, à tous les auditeurs du studio Tamani et à ses radios partenaires. Je salue d'avoir l'initiative de ce débat qui permet aux journalistes de s'exprimer et de partager leurs avis sur les sujets d'intérêt national. Par rapport à votre question, je pense que c'est la suite logique de tout ce qui s'est passé à Menaka le 27 avril dernier. Mais passons à savoir que la ville de Menaka est très stratégique. Elle est tout le temps le début des rébellions au Mali. Mais si les rébellions ont pour base naturelle la ville de Kidal, elles ont pour base de démarrage aussi la localité, le chef de Menaka. Donc vous savez que aujourd'hui à Menaka, c'est les Gatia, la plateforme qui est là-bas. Elle fait face à des représailles, à des répliques de la CMA qui ne parvient pas toujours à rentrer dans cette ville depuis qu'elle en a été chassée. Donc c'est des choses simplement que bien avant, même le jour de la signature de l'accord, il y avait des combats aux alentours de Menaka. Et je pense que ça ne va pas se terminer tant qu'un groupe n'aura pas le dessus sur l'autre.
Merci beaucoup Kassim Traoré. Je rappelle que vous êtes journaliste à la radio Clédou. Alors nous allons revenir au studio avec Youba Konaté du Zénith Balé. Youba, quelques jours seulement, 3 jours après la signature de l'accord, il y a eu 3 morts du côté des militaires maliens. Aujourd'hui, c'est également 3 morts qu'annonce le gouvernement du Mali à travers un communiqué du côté des civils dans la région, toujours dans la zone de Tinahama. Alors aujourd'hui, c'est également 9 morts annoncés du côté de la rébellion. Que traduisent ces violences?
Merci donc, Monsieur Diakité, de nous permettre de donner une fois de plus Sidibé, de donner mon point de vue sur l'actualité de la semaine dans notre pays. Et moi, je pense que toute cette recrudescence de violence traduit une stratégie mûrement réfléchie par la CMA. Il s'agit de la stratégie de la terreur, installer la terreur pour se faire entendre et faire aboutir ses revendications. Ce n'est plus ni moins que ça. C'est-à-dire qu'il s'agit tout simplement d'instaurer un climat de terreur dans le pays, rendre à la limite la zone ingouvernable et dénuée de tout droit et permettre à ce que la CMA soit écoutée et qu'on comprenne que la CMA est, un acteur à part entière qui a son mot à dire dans, le déroulement ou du moins dans le maintien de la sécurité dans le nord de notre pays. Puisque quand vous vous rappelez, vous comprenez déjà qu'il a fallu énormément de pression sur la CMA, n'est-ce pas, quand vous reculez un peu, pour qu'elle paraffe déjà l'accord. Mais elle paraffe l'accord, juste la veille de la signature, la cérémonie, la grande cérémonie de signature ici à Bamako, elle n'est pas venue et elle l'avait dit dès le qui partaient, n'est-ce pas, au paraf, ils ont dit clairement qu'ils ne vont pas venir à la signature. Et ils ne sont pas venus. Mais quand vous vous souvenez aussi, vous comprenez qu'une semaine déjà avant cette période-là, on avait compris qu'on allait partir dans cette logique de terreur que la CMA entretient volontairement, n'est-ce pas, pour faire passer, n'est-ce pas, ses revendications et obliger le gouvernement malien à revenir à la table des négociations et réouvrir les négociations et introduire les points qui lui tiennent à cœur.
Mmh. Voilà. Alors, Mamoudou Bokoum, merci beaucoup Yuba. Mamoudou Bokoum, vous êtes à Mopti. Vous étiez ici à Bamako le 15 mai lors de la signature de l'accord de paix entre Bamako et certains groupes armés. Vous étiez accroché à votre téléphone pour savoir ce qui se passait sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons les résultats. 3 morts 3 jours après. Aujourd'hui, quelques morts également constatés lors des violences dans le nord du pays. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette situation?
Bon, moi, je dirais que bonsoir d'abord à tous les auditeurs et auditrices de Tamani. Et merci à toutes les radios partenaires de ce studio qui se bat quand même pour donner pardon, le maximum d'informations à tous les pays entiers. Alors, par rapport à ces recrudescences de violence, moi, je crois que c'est n'est ni plus ni moins qu'une stratégie, qui permet à pousser la communauté internationale à croire que les groupes armés existent bel et bien, ils sont équipés, ils ont les moyens. Mais ce que je veux vous dire, signer un accord, c'est une chose. La mise en œuvre en est une autre. Vous l'avez rappelé, le jour même de la signature, je crois que le confrère l'a dit, il y avait des affrontements au niveau de l'entour de Menaka. Mais ça continue toujours. Mais moi, je peux parler précisément sur la région de Mopti. Mais quand on prend la région toute entière, je peux vous assurer que la quasi-totalité de la région de Mopti est dans l'insécurité totale. Par exemple, Tenenkou, pas d'administration, Yuaru non plus, les chefs de village, imams, ils ont quitté leur lieu de résidence pour d'autres villes pour se sécuriser parce qu'ils n'ont pas fait allégeance à ces différents groupes armés qui font le va-et-vient. Mais ce qui est sûr, moi je pense que la signature, elle est en elle est bonne, mais la façon de le faire, c'est pour faire croire aux gens que c'est fini, or ce n'est pas fini. C'est-à-dire que d'après les Bamara, ce n'est que quelqu'un d'inca, d'immatériel. Donc ça ne peut pas aller. Donc c'est une chose qui est là. Il faut qu'on soigne la plaie d'abord. Quand on n'a pas soigné la plaie, on va continuer à signer, re-signer, re-signer. Les violences ne vont pas finir. Vous avez rappelé tous les nombres de morts qu'on a enregistrés après la signature. On dirait que rien n'a été fait par rapport à la promotion de la paix et puis au vu aussi de tout le monde, de toute la communauté internationale qui ne fait que dire arrêter la violence. Elle a toujours dit cette communauté internationale, mais une communauté internationale très très passive, je ne sais pas, ils ont peur de quoi, moi je ne sais pas, hein. En tout cas, cette signature-là, moi, ça ne me donne pas trop confiance pour l'avènement de la paix réelle. Mali.
D'accord. Merci beaucoup Mamoud Bokoum. La transition est donc toute trouvée pour me diriger vers Kassim Traoré pour voir avec lui quel peut être le rôle donc de cette communauté internationale face aux violences.
La communauté internationale, je pense que la voie la plus autorisée est venue nous dire ici de ne pas prendre notre signature comme moyen d'aller traquer ou de faire la guerre à tous ceux qui n'ont pas signé. Elle l'a dit. Elle nous a dit aussi de prendre notre destin en main et que c'est à nous de faire la paix dans notre pays. Dans la mesure où le chef de l'État même a été clair lors de la cérémonie de signature, moi je pense qu'il devrait avoir plutôt un engouement ou un soutien de la société civile, pour ne pas dire de la population malienne, derrière le discours du président de la République, chose qui tarde à se réaliser. Je pense aussi qu'on est dans une phase où il faudra être très très vigilant parce que la communauté internationale peut même nous mettre sur des sacrifices et nous devrons voir tout ce qu'on a acquis, comment préserver nos acquis. Imaginez un pays qui était divisé, où à peine même les gens partaient au nord. Les cars, beaucoup en sait beaucoup de choses dans les cars. C'était des comportements, les femmes d'un côté, les hommes d'un côté. Ton téléphone portable, si ça sonne, autre musique qui n'est pas religieuse, tu serais ce qui t'attendait. Donc, après tout cela, et qu'on est parvenu à trouver une table de négociation, je pense que nous devrons préserver nos acquis, aller en intelligence avec la communauté internationale pour nous tirer d'affaire. Parce que tout comme dit, c'est nous qui avons appelé cette communauté internationale, c'est nous qui leur avons dit de venir. Maintenant, si nous ne faisons pas notre affaire, essayons-nous aussi de prendre le temps. Parce que aujourd'hui, la grande satisfaction dans tout ce qu'on voit sur le terrain, c'est la performance de l'armée malienne. Vous avez vu qu'elle a été attaquée à divers points. Mais jusqu'à présent, personne n'a attendu qu'un soldat arrive. Personne n'a attendu que quelqu'un s'est venu se réfugier à Bamako, un militaire, quelque chose comme ça. Ça, c'est des acquis aussi à renforcer. Et l'armée malienne est à s'allier à ce niveau. C'est à nous maintenant de voir comment, en intelligence, combiner les deux pour nous maintenir le temps de mettre une véritable armée. Parce que tout ce qu'on est en train de dire, on fera cette guerre. Elle est inévitable. Nous sommes avec des gens qui n'entendent que le bruit des armes. Tout ce qu'on va signer comme papier accord, à finalité, ça sera les armes. Et nous devons profiter du temps de frottement pour équiper notre armée, prendre les dispositions nécessaires, armer aussi moralement le peuple. Ceux qui croient à Bamako ici, qui s'amusent, qui dansent, qui font des mariages, qui pensent que la crise est derrière nous, ce n'est pas une réalité. Même quand, je suis désolé de le dire, quand on regarde la télévision nationale du Mali, on pense qu'on est dans un pays de paix. C'est le hier seulement sur l'ORTM. On passait des sketchs pour banaliser l'hymne national du Mali. C'est des choses à interdire, parce que ce n'est pas de bonnes choses. Nous, on est dans un pays de crise, les gens sont venus nous aider, il faudra qu'on se mette dans cette peau. Voilà ce que je voulais dire sur ce point.
Merci beaucoup, Kassim Traoré. Je rappelle que vous êtes journaliste à la radio Ekledou. Merci donc de rester avec nous pour la suite de cette émission. Alors, Yuba, vous êtes ici avec moi dans le studio. La MINUSMA laissait entrevoir, avant même la signature du 15 mai, que d'autres négociations pourraient s'ouvrir à côté donc pour ramener la CEMA à signer cet accord de paix. Alors, que faut-il attendre aujourd'hui de cette ouverture proposée par la MINUSMA?
Moi, je crois que notre marge de manœuvre est assez réduite, quoi. C'est que nous n'avons pas assez de marge de manœuvre dans ce processus-là. Il va falloir qu'on soit, comme l'a dit mon confrère, très patient avec la MINUSMA et être très tactique aussi, savoir jouer, parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire avec nous. Et c'est à nos autorités de le comprendre et de savoir jouer avec la MINUSMA. En son temps, c'est nous qui avons appelé la MINUSMA. C'est nous qui avons appelé les forces des Nations Unies. Puisque quand on dit la MINUSMA, la communauté internationale, les gens... Moi, j'ai comme l'impression que les gens oublient souvent que c'est quand même composé de nations aux intérêts divers et des trucs. Donc, énormément de choses dans... Donc, souvent, c'est des compartiments qui peuvent faire glisser les décisions vers un côté. Et ça, aujourd'hui, il ne faut pas être réaliste politique pour comprendre qu'il y a quelque chose au sein de la MINUSMA qui ne va pas, qui est à l'encontre. Puisque quand ce matin, j'entends un communiqué de la MINUSMA qui dit qu'ils vont tracer une ligne rouge à 5 km de Menaka, ça, c'est quoi? Il faut qu'ils nous respectent. Il faut qu'ils nous respectent, c'est le minimum. Comment vous pouvez dire, c'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui nous avons quand même signé un accord qui a été négocié pendant 8 mois par l'ensemble de la communauté internationale. Il faut que la MINUSMA d'abord se respecte et qu'elle se fasse respecter. Parce que c'est la MINUSMA qui a mené les négociations pendant 8 mois. Les négociations ont été menées et qu'ont donné les résultats. Mais à la veille de la signature du paraf déjà, mais tout le monde sait que le Mali avait plus de 4 pages d'amendements à apporter au document. Mais les rebelles, la CMA, au seul motif qu'ils avaient aussi des amendements à proposer, ont refusé carrément de paraffer. C'est là que tout est venu. Puisque on peut pas mettre 8 mois à négocier un processus. Et à la veille du paraff, une organisation fidèle rebelle s'est dit non, nous on ne signe pas. Et ils pensent qu'ils respectent ceux qui ont mené ce processus-là. On ne dit rien, la MINUSMA ne dit rien. On court derrière encore ces gens pour les obliger à signer. Chose qui va finalement arriver après combien de gymnastique pour qu'à la veille même de la signature, ils paraffent les documents. Et ils paraffent les documents. Maintenant, ils continuent à attaquer des positions de l'armée malienne à attaquer des villes. Tout le monde sait que c'est eux, ils le font à visage découvert et ils s'en glorifient, ils le revendiquent. Et l'aménagement dit non, on va tracer une ligne rouge à 5 km de la ville pour que... Non, il faut que l'aménagement d'abord se respecte et qu'elle se fasse respecter. Imaginez un seul instant que ce soit l'État malien qui était dans la position de l'acier actuellement. Qu'est-ce qu'elle allait se dire? Donc, il va falloir vraiment que la communauté internationale prenne ses responsabilités, puisque après la signature, Hervé Latsouts l'a dit, c'est-à-dire que la signature n'est pas un chèque en blanc pour nous pour dire ouais, on va aller traquer tout le monde. Ok, on est d'accord avec lui, c'est eux qui tracent les logiques, comment dirais-je, la conduite à tenir. Mais il va falloir qu'ils nous respectent un peu, nous aussi, en tant qu'État. Parce que moi, j'ai été un peu offusqué, si vous me permettez, M. Oui. Sirbé, de revenir un peu sur le choix même des terminologies. Je pense que dans le projet d'accord même déjà, nous avons dit c'est un compromis. C'est, l'État malien a laissé énormément de choses et moi je pense que nos négociateurs n'ont pas été souvent très vigilants sur les termes. Quand vous parcourez les documents, vous allez voir partout c'est écrit les protagonistes, les parties belligérantes, les trucs. Mais quelle partie belligérante? C'est, il faut prendre les choses par leur nom. C'est l'État du Mali et la rébellion.
Nous allons observer une pause et nous nous retrouvons pour le deuxième sujet.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, notre page Facebook, notre compte Twitter sont à votre disposition pour réagir à nos productions ou réécouter cette émission si vous le souhaitez sur notre site web www.studiotamani en un seul mot .org ou faites-nous part tout simplement de vos observations à notre adresse mail contact au singulier @studiotamani.org. Nous sommes au forum de la presse qui réunit les confrères journalistes et le deuxième sujet s'appelle donc la haute autorité de la communication qui a été validée mercredi dernier par les députés de l'Assemblée nationale à l'unanimité. La création donc de la haute autorité de communication est effective. Organe indépendant, la HAC va avoir pour mission de réguler le secteur de la communication. Kassim Traoré, une réaction après cette création de la haute autorité de la communication?
Un peu de la enfin, parce que vous imaginez que lors des débats à l'Assemblée nationale des députés, il s'est étonné que la presse ait choisi ses délégués bien avant le président de la République et le président de l'Assemblée nationale qui doivent désigner chacun trois représentants. Moi, je me dis que la presse n'a rien fait. Le ministre qui a organisé Mamadou Camara à son époque, il passe au conseil des ministres, il fait partie de l'exécutif, il sait ce qu'il a fait. Maintenant, ce n'est pas aux députés de le mettre en cause. Ce sont ces mêmes députés qui avaient refusé sous prétexte de quoi on sait encore, d'adopter la haute autorité de la communication. Je dis simplement Dieu merci. C'est une bonne chose dans la mesure où elle va permettre quand même de mettre de l'ordre dans nos rangs aussi, parce qu'il faut le dire, tout n'est pas clair chez nous aussi, mais si on a une structure, il faut qu'elle soit respectée et qu'elle soit à hauteur d'attente et qu'elle sévit au moment où elle doit sévir et qu'elle récompense aussi où il doit y avoir des récompenses pour ceux qui méritent de la profession.
Merci beaucoup Kassim Traoré. Je rappelle que vous êtes journaliste à la radio Clédou. Alors Yuba, vous êtes au Zénith Balé. La haute autorité de la communication est créée. Le texte a été validé donc par l'Assemblée nationale mercredi dernier. Une réaction après cette création?
Merci M. Sidibé. Oui, comme l'a dit Kassim, effectivement c'est une bonne chose. Une instance unique qui va réguler, n'est-ce pas, l'ensemble de la profession, c'est certainement que c'est une bonne chose. Mais quand vous prenez toute la logique que nous avons ici dans notre pays, moi je reste un peu méfiant à l'égard, surtout déjà la mise en place ou le choix des délégués de la presse a créé énormément de frustration au niveau de la profession, c'est clair. Ça crée énormément de frustration puisque tout ne s'est pas déroulé comme prévu. À l'époque, c'est le ministre Mahamadou Camara qui a mené les opérations. Donc, tout n'a pas souvent été très clair, il faut le dire. Et donc, mais au-delà de ça, ça dit que la mise en place de la HAC va permettre certainement de réguler le secteur et, comme l'a dit Kassim, permettre à ce que, n'est-ce pas, instaurer un minimum de règles, n'est-ce pas, dans cette profession, puisque vous-même vous constatez qu'il y a énormément de dérives. Et souhaitons vraiment que l'installation de la Hague va permettre, n'est-ce pas, d'instaurer un autre climat et de voir une autre, d'apporter des choses à la profession.
Merci beaucoup, Youba Konaté. Je rappelle que vous êtes journaliste au Zénith Balé. Alors, Mahmoud Boukoum, vous êtes à Mopti. Vous êtes également coordinateur du réseau de l'URTEL de la région de Mopti. Aujourd'hui, la HAC, la Haute Autorité de la Communication, vient d'être créée. Dites-nous, quel sentiment est-ce que vous avez et est-ce que vous êtes optimiste?
Permettez-moi, Famosa, de dire un seul mot à la ministre. Ils ont un mandat, une mission. Il faut quand même qu'ils servent quand même.
Vous nous ramenez en arrière, là?
Non, un seul mot seulement. Il faut qu'ils demandent, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils ont un mandat et une mission. D'abord, qu'ils servent à rendre un peu robuste leur mission et leur mandat pour que la population puisse le comprendre. Sinon, je ne vois pas comment ça va se passer. Comme vous m'avez discriminé, parce que je n'ai pas parlé sur ce point. Maintenant, par rapport à la création, à la validation de la HAC, moi, d'emblée, je crois que, surtout pour nous, les radios, je crois que c'est un groupe de soulagement parce qu'il faut le reconnaître, le secteur est un peu évolué un peu dans les désordres. Les gens se permettent de dire des choses vraiment qui n'ont aucun respect pour l'éthique et la déontologie de la profession. En tout cas, l'idéal, c'est un idéal d'avoir pensé à créer cette haute autorité. Parce que par le passé, on a vu ODF, on a vu ceci ou cela. C'est eux-mêmes les responsables de ces différentes structures. Ils sont les premiers violeurs de l'éthique et de la déontologie de la profession. Moi, je crois qu'avec cette nouvelle structure qui est la HAC, je crois qu'on peut atténuer un peu la profession. Mais ce qui me rend un peu perplexe, c'est leur mandat. Parce que y a l'Assemblée a même 3 personnes, le président et la presse. Mais pourquoi moi, c'est ce que je ne peux pas comprendre. D'autres ont un mandat de 5 ans, d'autres ont un mandat de 6 ans. Donc ils n'ont pas les mêmes mandats ou bien ils n'ont pas les mêmes missions. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Une structure qui a été mise en place pour les mêmes raisons, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire le président a choisi ses éléments, l'Assemblée et la presse. Mais pourquoi la presse finit son mandat et l'Assemblée et les gens du président vont continuer une année après pour faire quoi par rapport à qui? Donc moi, là, je n'ai pas compris, c'est un peu flou. Autant dire que même au niveau de la Cour constitutionnelle, il faut dire qu'ils n'ont pas le même nombre d'années dans la gestion de la Cour constitutionnelle. Je ne peux pas comprendre que les gens dans la même structure n'ont pas la même année, le même nombre d'années concernant leur mandat. En tout cas, ici, moi, je suis en train de voir jusqu'à présent, c'est vrai, les 125 députés présents ont dit oui et à ça, et je ne sais pas, ils n'avaient pas fait des amendements par rapport à ça. En tout cas, nous, au niveau de la presse, c'est précisément au niveau de la radio, moi, ça n'engage que moi, je vais le dire, moi, je ne comprends pas ce que ça. Donc l'État nous explique pour quelles raisons il y a d'autres éléments qui ont été nommés par le président, qui ont plus de nombre de, d'années à rester, et d'autres ont 5 ans. Donc à l'absence de ces gens-là, ils vont nommer d'autres pour venir les compléter, mais ce sont les 3 qui vont continuer. Moi, c'est la question que je me pose. Et la réponse, je ne l'ai pas. Si vous l'avez, vraiment, aidez-moi.
Merci beaucoup, Mahmoud Boko. Malheureusement, la réponse va attendre un tout petit peu. Nous avons le représentant donc de la presse publique à la personne de Amadou Dia, qui est avec nous ce soir. Il est à l'essor. Alors, Cheikh Amadou Dia, la HAC vient d'être créée, la Haute Autorité de la Communication. C'est pas que pour réguler le secteur privé, mais c'est également la presse publique. Quel doit être le rôle donc de la HAC et face aux organes publics?
Merci, mon cher Famous. Pour moi, la HAC, c'est vraiment la bienvenue parce que, à mon avis, il y avait avant la HAC le Haut Conseil de la Communication, si je ne me trompe pas, mais voilà, qui a montré toutes ses faiblesses. Et si vraiment il y a une réforme, une rénovation, si on peut se le permettre, dans ce secteur, c'est vraiment bienvenu pour moi. Et je pense que leur rôle doit être aujourd'hui s'attaquer d'abord à soutenir le secteur.
Les médias.
Les médias. C'est un secteur aujourd'hui, c'est une entreprise. Les entreprises de presse, voilà, elles sont là, disons. Donc du coup, il faut...
Beaucoup existent dans la précarité.
Voilà, dans la précarité, il faut les soutenir matériellement, financièrement, et puis en termes de formation. Et vraiment, essayer de formaliser le domaine, former les gens, et leur apprendre le métier. Et voilà, et trancher aussi quand il le faut, quand il y a des dérives. Pour moi, vraiment, c'est ça. Quoi.
D'accord. Cheikh Amadou Dia, qui est donc journaliste à l'Essor. Merci beaucoup, Dia. Nous partons vers Kassim Traoré, qui est journaliste à la radio Clédou. Kassim, est-ce que vous pensez que la HAC doit s'impliquer pour la mise en œuvre de la convention collective qui définit donc les relations entre employés et employeurs?
Je pense que, avant de répondre à cette question, pour soulager beaucoup, c'est-à-dire dans l'esprit même de la mise en place de la HAC, il a été décidé un certain nombre de points de commun accord. Parce que c'est un texte qui n'a pas été soumis à tous les professionnels de MEGA avant d'aller à l'Assemblée nationale. Donc le souci, là où il demande, tu ne comprends pas que certains ont 5 ans, d'autres ont 7 ans, c'est par souci de permettre à la structure, pendant un bout de temps, d'avoir la ressource humaine, c'est-à-dire des personnes qui ne vont pas venir seulement faire les 5 ans et puis partir. Il y en a qui vont rester pour même permettre à la structure d'avoir des ressources humaines et permettre aussi d'expliquer aux nouveaux qui vont venir comment ça fonctionne afin qu'ils puissent avoir de la documentation et un peu de ressources pour faire l'affaire évoluer, fonctionner rapidement. C'est dans ce souci que les professionnels ont décidé comme ça, que ça soit comme ça. Il y a même des lois dans la loi, disons des articles dans la loi instituant même la HAC qui l'explique. Et quand il lira le dossier, il va comprendre de quoi il s'agit, il ne va pas s'inquiéter. Moi, mon inquiétude, ce n'est pas la HAC qui va faire le travail des journalistes. L'application de la convention collective, c'est le travail des journalistes. C'est aux journalistes de mettre en place un syndicat qui se retrouve dans ce syndicat. Et ce syndicat doit avoir des antennes ou des démembrements dans chaque rédaction. Et ce sont ces rédactions qui alimentent le syndicat et qui font le combat pour l'application de l'accord de la convention collective. La HAC peut être là pour décider, mais elle ne fera jamais le combat à la place des journalistes. L'application des conventions collectives qu'on a vues dans les pays, ce sont les syndicats des journalistes qui en ont fait leur affaire, qui ont appliqué, qui ont défendu leurs intérêts face aux patrons.
Merci beaucoup Kassim Traoré. Merci pour la précision apportée à Mahmoud Bokoum. J'espère que Bokoum a trouvé en ses explications toutes les réponses nécessaires. Alors Yuba, est-ce que vous êtes d'avis avec Kassim que c'est les journalistes qui doivent donc permettre l'application de la convention collective?
Ah, très clairement. Ce n'est pas, comment dirais-je, à la HAC de faire ce rôle. C'est-à-dire que c'est substituer aux syndicats des journalistes qui doivent, par vocation, se mettre en place d'abord parce qu'il n'en existe même pratiquement pas dans notre pays. Il y a, comment dirais-je, l'OJRS avec un bail qui essaie de se faire vivre mais très, très difficilement. Mais au niveau des professionnels, même des médias, au niveau de notre pays, il n'y a pratiquement pas de syndicats. Peut-être à l'essor dans les médias publics, c'est sûr qu'ils sont affiliés à l'INTM et autres, mais particulièrement de façon singulière et par rapport aux spécificités que vit notre métier, il n'y a pratiquement pas de syndicats de journalistes. Donc, c'est d'abord de mettre en place des syndicats de journalistes pour défendre les journalistes face aux patrons. Et dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas la mise en place de la HAC qui va permettre la... Non, moi, je ne vois même pas de relations directes.
D'accord. Ouais.
Alors... Peut-être que l'existence de la HAC qui va donc réguler le secteur va être un atout pour les journalistes et les syndicats de journalistes. Et donc, ça peut être un atout, mais pas se substituer aux syndicats de journalistes.
D'accord. Le dernier sujet de cette émission sera consacré à l'immigration. Le Mali vient donc d'adopter le plan national de la migration dans le pays avec pour mener quelques actions. 8 actions au total sont répertoriées dans ce plan. Nous allons en parler après quelques secondes de pause.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Studio Tamani est donc de retour, le débat est de retour, le forum de la presse qui réunit aujourd'hui quatre journalistes, des représentants de part et d'autre de la presse publique comme de la presse privée. Deux journalistes sont en ligne, deux dans le studio ici avec moi. La troisième partie donc de cette émission est consacrée à l'immigration face à l'absence de vision stratégique de la problématique migratoire dans sa globalité. Le Mali décide de se doter enfin d'une politique claire de la problématique de la migration. L'objectif principal de cette politique, une meilleure gestion de la migration afin qu'elle contribue à la réduction de la pauvreté et au développement durable du pays. Il y a donc 8 actions qui sont répertoriées dans ce plan national: la protection et la sécurisation des migrants, l'organisation et la facilitation de la migration légale, une meilleure réinsertion des migrants de retour, la valorisation des capacités des diasporas au développement national, le renforcement des capacités des organisations de migrants et la société civile, un meilleur positionnement stratégique du Mali sur les questions de migration, l'amélioration des connaissances sur les migrations, la réadaptation des conditions d'entrée de séjour et d'établissement au Mali sont les objectifs, donc les activités que devront mettre en place, que doit mettre en place ce plan national. Alors, Kassim Traoré, vous êtes journaliste à la radio Clédou. Aujourd'hui, est-ce que c'est pour répondre donc à la solidarité des pays membres de l'Union européenne que le Mali adopte enfin ce plan de la migration?
Ça pour dire d'abord que moi je pense que nous, dans notre pays, on aime faire trop de folklore. Le document qui vient d'être sorti pour être appliqué a été adopté depuis 2006. Et ce n'est pas un document des Maliens, c'est un document concocté par un centre qui est institué ici au Mali par l'Union européenne. Donc c'est la politique en matière de migration de l'Union européenne. Les 8 actes dont vous parlez, ça correspond directement aux préoccupations de l'Union européenne en matière de retenir les migrants dans leur pays d'origine. Vous avez vu quelqu'un raser la tête d'une autre personne à son absence? C'est impossible. Les populations même qui sont concernées ont fait une conférence de presse. C'était avant-hier à la maison de la presse. Les ressortissants et les Maliens ont dit qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce document. C'est un document des Européens. Et tant qu'on ne leur demandera pas de proposer quelque chose, aucun projet ne va leur faire retenir. Ils peuvent aider les pays à sensibiliser, à organiser d'une autre manière les déplacements des gens vers l'Occident. Mais dire qu'il y a des projets, il est malin à faire des fleuves. Comment tu vas dire à quelqu'un de faire la pisciculture là-bas ou de faire autre chose? Vraiment, il faut qu'on associe nos populations dans certaines prises de décision, dans l'élaboration de certains documents qui les concernent, parce qu'ils sont les premiers bénéficiaires. En tout cas, je serais étonné de voir l'efficacité de ce projet. Dans la mesure où Aminata Dramane Traoré, en son temps, en 2008, avait initié un programme Retour Dignité Travail. Les gens qui étaient dans ce projet ont été installés à Guinée. Ils ont prouvé que cela peut réussir. Ils ont prouvé que c'est possible. Mais ils ont été associés à l'élaboration du projet en tant que victimes de l'immigration.
Merci beaucoup, Kassim Traoré. Alors, Cheikh Amadou Dia, vous êtes au journal L'Essor, donc qui est la presse écrite publique. Aujourd'hui, le Mali se dote d'un plan national migratoire. Aujourd'hui, quelles peuvent être les réussites de ce plan?
Merci, Famoussa. Moi, je pense que l'État malien doit saisir cette occasion, cette opportunité. Parce que vraiment, l'Union européenne a saisi toute l'ampleur de ce problème depuis longtemps avec la création, je rejoins mon confrère Kassim, de la CIGEM, je pense, la structure qui est installée à Bamako.
Non, Kassim est journaliste.
Oui, je dis, il a évoqué l'existence d'une structure qui s'occupe de ça, qui est financée par l'Union européenne, la CIGEM.
Exactement.
Voilà, qui... Et je sais en son temps qu'il a accompagné beaucoup de projets de retour de réfugiés de l'Europe. Et puis mais à la base, il faut aussi empêcher les gens de partir. Donc l'État vraiment peut s'inspirer de cette expérience de la CIGEM, créer aussi une structure parallèle, pourquoi pas, et en sa manière, un modèle malien, pour accompagner ce processus et puis stopper ce phénomène qui, vraiment, moi, je pense, catastrophique.
D'accord. Alors, nous allons partir à Mopti avant de revenir vers Yuba. Mahmoud Bokoum, quelques mots sur l'adoption de ce plan.
Cette nouvelle politique d'immigration, moi je crois qu'en matière de texte, le Mali est spécialisé, très très spécialisé. Sinon, on peut dire que c'est le meilleur pays qui peut adopter des textes. Je ne sais pas la provenance des textes qu'il a édité, en tout cas, un projet à 8 points. Mais ce qui m'a attiré, j'ai vu un peu, je crois comprendre que c'est 120 milliards qui vont être injectés dans le secteur pour empêcher, pour gérer cette file migratoire. Mais ce qui est sûr, il ne faut pas oublier que le Mali, par rapport à côté des 120 milliards qui vont être injectés dans ce projet, il ne faut pas oublier qu'au Mali, les immigrés, combien ils vont rentrer dans le pays? Est-ce que l'État a pensé à ça? Par le passé, on a vu des immigrations choisies, ici ou cela, ils prennent... Bon, ce qui est sûr et certain, ce n'est pas facile, en tout cas, d'arrêter ou de stopper l'immigration au Mali ici. Deuxièmement, les textes, on les élabore pour qui? Pour la population. Le problème, c'est que la population est très, très loin de la réalité de l'élaboration de ces textes-là. Quand tu veux servir quelqu'un, la moindre des choses, c'est de venir prendre son point de vue, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu proposes, est-ce que ça, c'est bon pour toi, ainsi de suite. Mais tout cela, jamais on ne voit pas ça. Quand on prend toutes les régions du Mali, par exemple, la région de Kaï, c'est la région la plus immigrante, la région de l'immigration par excellence. Les Kaïdiens dans la région de Kaï, combien ils injectent dans le budget national d'abord, avant d'aller dans leur localité? Combien ils font les transferts? Il faut demander aux affaires étrangères, plutôt aux Maliens de l'extérieur, d'évaluer. Quand ils font les bilans, tu trouveras que le montant qui va être injecté dans ce projet pour sa réalisation n'atteint pas les 1/20 de ce que les immigrés maliens envoient dans leur pays et pour aider leurs parents. Ce n'est pas possible. Moi, je crois qu'il faut appeler, il faut faciliter l'immigration des Maliens. Il faut le faciliter. On élabore un programme avec eux. Voilà, cette année, on a besoin de tel nombre de gens, on va les régulariser pour qu'ils partent. Moi, je crois qu'il faut aller vers ça maintenant. Ça vaut mieux de rester cloisonné dans un bureau et écrire des textes d'une centaine de pages et venir imposer ça aux pauvres populations qui veulent aller prendre la relève, qui veulent aller prendre en charge leur famille dans différentes régions. Quand tu dis à un Malien de ne pas d'arrêter l'immigration maintenant, mais ça veut dire que tu as bouché l'économie. Tu vas voir s'ils parviennent à stopper complètement l'immigration, l'économie malienne va être bouchée. Parce que tout ce que l'immigration fait, les immigrés font rentrer au Mali, je peux jurer que lors du Mali, le Mali ne profite pas comme ça de son nom. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, moi, je crois qu'il faut associer les populations elles-mêmes, vraiment, dans l'élaboration de ces textes, leur parler, demander leurs propositions, qu'est-ce qu'ils veulent. Ça vaut mieux d'être dans un bureau et éditer des centaines de pages pour venir nous imposer ça. En tout cas, nous, dans les différentes régions, je ne connais pas Bamako, dans les différentes régions, tu prends la région de Kaï, la région de Mopti, en tout cas, quand tu demandes aux ressortissants de ces différentes régions, quand même, de sauter, de ne plus aller à l'extérieur pour aller découvrir l'aile du Eldorado. Moi, je crois que tu as tiré à l'air. Et ces textes-là, ils ne connaissent même pas le contenu. On vient, on t'impose et puis on veut l'appliquer. Ce n'est pas possible. Hein. Moi, je crois qu'on a d'autres priorités aujourd'hui qui n'est pas financer, injecter tel nombre de budget dans l'immigration. Cet argent, si on avait injecté dans l'armée, quelqu'un l'a dit par le passé, il faut réarmer moralement et matériellement notre armée. C'est 120 milliards qu'on va injecter dans ces différents projets ou quelques éléments seulement qui vont bénéficier. Donc si on injectait ça dans les matériels militaires, on serait pas là aujourd'hui. On allait pouvoir nous défendre sans pour autant avoir besoin de qui que ce soit pour nous défendre.
Moi, oui, mais Mahmoud Bokoum, je vous arrête.
Je vais finir. Allez-y. On essaie de prioriser les actions maintenant, monsieur Famsa.
La priorité, c'est peut-être vers ce domaine également, car il y a des centaines de Maliens qui vont donc mourir en Méditerranée et la question mérite peut-être une réflexion, notamment des investissements dans le domaine. Alors, Yuba, vous n'avez pas réagi par rapport à ce thème.
Oui, merci. Allez-y. Merci, Bamsa. Je crois que c'est la partie incongrue que tu me donnes dans cette position. Alors que j'avais énormément de choses à dire par rapport à ces points. point, c'est que je voulais apporter un témoignage. Rien que la semaine dernière, j'ai voyagé à Niamey, au Niger, par voie terrestre. Donc, Bamako, Niamey, j'ai fait le tronçon avec énormément de jeunes Maliens qui partent vers la Libye pour arriver, à Lampedusa. C'est-à-dire que j'ai eu des altercations avec les policiers, notamment à Kanchari, qui est le dernier village, le dernier poste au Burkinabé avant le Niger, et à Maloukondi, le premier poste nigérien. À ce niveau-là, à Kanchari, à Maloukondi, les Maliens, les jeunes Maliens, chacun, au vu seulement de la pièce d'identité, paye 10 000 francs ou tu descends du car. Il n'y a rien à faire, même si tu payes 9 750, tu descends. À Kanchari, je suis formé là-dessus. Et à Kanchari, il paye 20 000 francs. C'est-à-dire que le premier poste, il paye 10 000 francs. Entre le premier et le deuxième poste, il y a à peine 5 km dans la ville de Kanchari. 10 000. Tu payes les 10 000 francs. S'il y a 25 francs qui manquent, tu descends du car. Arrivé à Maloukondi, le premier poste nigérien, les jeunes Maliens, tout jeunes Maliens. C'est-à-dire que même quelqu'un qui va à Niamey, on s'en fout. Tu payes 15 000 francs à Maloukondi. Pourquoi ? Je me suis amusé à discuter un peu avec les gendarmes burkinabés qui étaient en poste à Kanchari. Ils me disent oui, comme ils vont aller se faire tuer à Lampedusa, autant qu'ils nous donnent ici notre part. Et moi, je me suis vite, très vite, ce n'est pas que des Maliens qui sont concernés. Dans notre car, il y avait à peu près, je crois, 18 jeunes Maliens. Il y avait des Gambiens, il y avait des Sénégalais, il y avait des Guinéens de Conakry, et il y avait un Bissau Guinéen. C'est-à-dire tous ceux qui viennent de l'ouest de l'Afrique, tous les jeunes, on se dit qu'ils vont... en Libye. Donc, on les exhorte de l'argent. 10 000 à 15 000. Jusqu'à ce que certains déjà arrivés à Niamey n'ont plus de fonds. Et je vais encore ajouter un témoignage. C'est-à-dire que j'ai rencontré ici à Niamey, arrivé dans la ville de Niamey, puisqu'il y avait un jeune diplômé malien, économiste de 2007, m'a-t-il dit. Il est de la promotion de 2007 de section économie de l'ENA. Il va lui aussi en Libye. Donc, quand il m'a vu me débattre avec les gendarmes et autres pour défendre mes compatriotes, oui, il est venu me voir à la descente du car. Il me dit, tu sais, jeune homme, moi j'ai compris par la suite que vous êtes journaliste, tout ça. Mais moi aussi, je vais en Libye. Mais j'ai dit, tu vas faire quoi en Libye? Toi, tu m'as dit, une fois quand on discutait que tu as un diplôme en économie. Il dit, oui, lui, il a tout tenté, rien n'a marché. Son dernier recours, c'est la Libye et il va y aller. S'il doit mourir, c'est Dieu qui l'a décidé pour lui. Et à Niamey, il n'avait plus que 10 000 francs. Alors que le premier poste pour sortir de Niamey et aller à Agadez déjà, tu pèses 15 000 francs là-bas. J'ai dit maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as plus que 15 000 francs. Alors que le transport Niamey déjà à Agadez, ça fait 20 000 francs. Si moi-même, si je te complète les 15 000, ça dit qu'au premier poste, on va te faire descendre parce que tu n'as pas les 15 000 francs à payer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc moi, je pense que, comme Kassim l'a dit, moi j'étais devant ma télé, j'ai vu qu'on dit que la politique nationale est adoptée. Mais ça, c'est un vieux document qui depuis 2006 a été concocté et truqué par l'Union européenne. Il faut le dire, il faut qu'ils le disent. Et 120 milliards, l'argent vient d'où? À 99%, ça vient de l'Union européenne. Et donc, c'est la politique de l'Union européenne, comme dans toutes nos politiques. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on vient du prêt-à-porter qu'on va venir donner aux populations. Et il y a un jeune garçon qui, à peine, je n'ai pas demandé son âge, mais je suis sûr qu'il n'a pas 20 ans. Il a 17 ou 18 ans. Je lui ai dit, mais toi, tu n'as pas entendu parler des morts, des centaines de morts de la semaine passée, puisque c'était juste après. Il dit, mais quelle mort? Des morts de la semaine passée, il y a eu plus de 800 morts. Il dit, mais ça, c'est des faits divers. Ils vont en Libye et ils vont en Italie. C'est aussi simple que ça. Donc, vous comprenez un peu, ce n'est pas une politique adoptée à coût de 120 milliards signée par la 6e. Et vous avez vu, les préoccupations qui sont là sont les préoccupations de l'Union européenne. Puisque leur préoccupation, c'est quoi? D'arrêter la migration, que les gens ne partent pas les voir.
Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Ainsi s'achève cette émission. Merci à tous ceux qui l'ont assisté, qui l'ont animé. Ayouba Konaté de Zénith Ballet, Cheikh Amadou Odia du journal L'Essor, Kassim Traoré de la radio Clédou et Mahmoud Boukoum de la radio Kaoural. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité encore une fois au studio Tamani. Et chers auditeurs, merci pour votre fidélité également. C'est la fin donc de cette émission que j'ai eu le plaisir de présenter. Famoussa Sidibé à la technique. Il y avait Salim Djouara, Hassan Sidibé à réaliser cette émission. Mamadou Ouattara était à la régie vidéo. Merci à vous, bon week-end et à très bientôt.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et toi.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. C'est qui qu'il faut pas.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.